I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Connaissez-vous la drogue nommée laudanum? Le laudanum fut créé au XVIe siècle. Ce médicament, utilisé comme drogue, fit à cette époque d'innombrables victimes en Europe, en particulier en Angleterre et en France. Composé d'opium, d'alcool à 30 degrés et de safran, il en existait quelques déclinaisons en y ajoutant par exemple du sucre ou du miel. Connu aussi sous le nom de vin d'opium, sa composition finale fut mise au point par un médecin suisse. En médecine, justement, les docteurs pouvaient en prescrire pour lutter contre des diarrhées aiguës et chroniques, résistantes à tout autre traitement médicamenteux, ou pour calmer des douleurs, en raison de sa teneur en morphine. Ainsi, au XIXe siècle, surtout, parce que la pharmacopée était limitée, les médicaments dérivés de l'opium étaient considérés comme les plus efficaces. Ceci explique pourquoi le laudanum était alors prescrit pour un grand nombre de maladies, de la grippe à la méningite, chez l'adulte comme chez l'enfant. Mais dans ce dernier cas, on sait aujourd'hui qu'il causa la mort d'un grand nombre d'entre eux, notamment en Angleterre. Un grand nombre de femmes de l'ère victorienne se virent aussi prescrire du laudanum pour atténuer leur douleur menstruelle. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le laudanum était également utilisé pour les effets qu'il produisait sur le corps en dehors de toute souffrance ou maladie, dans le cadre d'une utilisation que l'on qualifierait de nos jours de récréative. Au Royaume-Uni, le laudanum était en vente libre, ce qui évidemment facilita grandement sa consommation comme drogue. Le poète Thomas de Quincey lança la mode dans les milieux artistiques et littéraires des expériences sensorielles avec l'opium. En 1821, il publie dans le London Magazine les confessions d'un mangeur d'opium anglais, où il raconte son expérience personnelle avec le laudanum, de 1804 à 1812. Mais il faut dire aussi qu'il lutta toute sa vie contre sa dépendance à cette drogue. Ainsi, à cette époque, en Asie, l'opium est fumé à la pipe, alors qu'en Occident, il est surtout bu sous forme de laudanum. Et en Angleterre, l'opiomanie touche toutes les classes de la société. Son usage était tellement répandu à l'époque qu'on en trouve la trace dans la littérature. Par exemple, Dracula s'en sert pour endormir ses victimes. De même, on le retrouve chez Baudelaire. Il publie en 1860 « Les paradis artificiels », dans lequel il traite des voluptés et des tortures de l'opium. Dans « La chambre double », il évoque clairement l'ambivalence du laudanum dans ses termes. « Dans ce monde étroit, mais si plein de dégoût, un seul objet connu me sourit, la fiole de laudanum. Une vieille et terrible amie, comme toutes les amies, hélas, féconde en caresses et en traîtrise. » Ainsi, la France a également connu la mode de l'opium dit récréatif, comme en Angleterre, mais sans toutefois connaître le phénomène d'addiction d'une partie de la population.